voix nue. Cette semaine, Leïla Djitli rencontre Jean-Paul Gaultier. Ce soir, l'immeuble de la rue Saint-Martin, l'avenir du prolétariat.
Donc bonsoir Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette dernière danse ensemble, là, pour cette fin de semaine, dans votre magnifique immeuble dont vous allez nous parler. Mais avant, je voudrais faire un petit résumé des épisodes précédents, hein, toute cette semaine. Donc vous nous avez parlé de votre enfance à Arcueil, de vos parents, du salon des dames de votre grand-mère, qui était votre première inspiratrice, de l'école, des premiers dessins de ces danseuses à paillettes des Folies Bergères, qui ont été quand même très importants, de votre ours, Nana, que vous avez torturé à loisir pendant des années, et puis aussi de grandes rencontres. Rencontre personnelle, amoureuse de votre compagnon Francis, disparu aujourd'hui, exactement. Avec lequel vous avez monté votre marque de couture, qui était très important. Dès toutes les rencontres extraordinaires, Madonna, Yvette Horner, Lady Gaga, et puis aussi des premiers défilés qui vous ont marqué. Et alors, aujourd'hui, j'aimerais d'abord que vous me parliez de cet immeuble absolument incroyable. Vous pouvez me décrire là où nous sommes, Jean-Paul ?
Eh bien, nous sommes au 325 rue Saint-Martin. C'est donc le lieu que j'occupe, entre guillemets, depuis, je sais pas, à peu près, ça doit faire 13 ans, même plus que ça. Ouais, ça doit faire plus, ça doit faire 15 ans, à peu près, ouais. Et c'est un lieu assez extraordinaire. J'avais eu le coup de foudre, c'est-à-dire qu'il était un peu en état d'abandon. Rue Saint-Martin, c'est pas un quartier spécialement mode, mais ça, c'est un choix tout à fait volontaire, et parce que, voilà, j'ai eu le coup de foudre pour le lieu lui-même. Alors, c'est drôle parce que il y a une grande inscription et tout avec des lettres et c'est qui signifie ce qu'était le lieu. C'était un lieu, je crois, où les gens se réunissaient et tout, et c'était à l'avenir du prolétariat. Donc, je crois que ça me convenait tout à fait, tout à fait. C'est assez drôle quand même et paradoxal, nom de Arcueil cachant à l'avenir du prolétariat, voilà. Mais où rue Saint-Martin, qui est un quartier plutôt pas mal et plutôt très sympathique et tout, mais qui n'est pas du tout l'avenue Montaigne, ni Faubourg Saint-Honoré. Ça me correspond beaucoup plus. Donc j'ai choisi le lieu pour le lieu lui-même, pas pour l'adresse. Et c'est un lieu donc qui était un lieu aussi bizarre que ce soit, mais et enfin quelle coïncidence quoi, qui est un lieu où il y avait des spectacles avant et des réunions. Et c'était un lieu aussi qui, à un moment, a été transformé et est devenu un endroit où cette salle que nous occupons maintenant, qui est la salle où je fais mes défilés couture, l'endroit où vous êtes, où nous sommes assis, c'est l'endroit où d'habitude sont tous les photographes et tout. Donc ce lieu a été, il y a de ça à peu près, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'années, je crois, un endroit où les gens s'exerçaient pour la boxe. Donc une salle de boxe, de répétition de boxe. Mais au fond, on voit un espace et là, on se rend compte qu'il y a eu des spectacles. J'en ai d'ailleurs donné quelques-uns. Une fois, un spectacle avec Joaquim Cortés, le danseur andalou de flamenco, et comment aussi Bianca Ali. Enfin, on a fait plusieurs soirées comme ça, assez spéciales. Mais c'est un lieu donc qui est prédisposé à la fête. Et évidemment, quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit, oui, ça c'est vraiment comme une maison de couture à l'ancienne, bien que la décoration ne l'était absolument pas.
Mais c'est immense, il faut nous dire. Il y a combien d'étages?
C'est très grand. C'est très grand. Je ne sais pas combien il y a de mètres carrés, pour être très honnête. J'ai aucune notion de l'espace, mais
il y a 7 étages quand même. Non, c'est
il y a 7 étages. 7 étages, donc on est au 7e ciel. Alors il y a beaucoup de places perdues.
On est comme dans une cathédrale. On est comme dans une cathédrale.
Quelquefois, ça me. Côté, ça, c'est peut-être ce que j'apprécie le moins du lieu. C'est assez beau, mais c'est ce que j'apprécie moins. Enfin, le seul reproche que j'aurais par rapport au lieu, c'est le fait de perdre d'espace, alors qu'on peut tellement faire plein de choses si c'était moins haut.
Vous voyez. On dirait le château de La Belle et la Bête.
Oh, me parlez pas de château.
Non, c'est pas un château.
Ah oui, le château de celui de La Belle et la Bête, ça va. Bon. Ça, c'est grâce au décor. C'est-à-dire que le décor, là, c'est là où les clientes couture, on va dire, viennent. Alors tous ces éléments que vous voyez qui sont un peu issus du morphing, tous ces éléments-là font penser en effet à La Belle et la Bête. Ce sont comme des paravents qui disparaissent au moment du défilé couture, puisque s'installent ces photographes qui alors me détruirait totalement tout mes éléments de morphing. Et c'est vrai que ça fait assez cocteauesque dans l'idée et dans le résultat final. Et je me disais, pourquoi pas, comme les vestiges d'une ancienne maison de couture. Alors c'est pour ça qu'il y a des cadres, mais on sait par avant, sont avec des cadres, et puis aussi des chandeliers, des choses comme ça, qui apparaissent, une cheminée par exemple, ouais. Des cadres, un miroir et tout. Mais le tout est recouvert de lycra, d'un lycra blanc. Donc, qui donne des espèces de volumes comme ça, absolument incertains, un peu, si vous voulez, comme des choses qui émergeraient du sable presque, vous voyez, d'un sable très fin et tout, et on sentirait des choses qu'il y a en dessous. Donc, une autre vie intérieure.
C'est très beau. Et puis, nous sommes entourés de la dernière collection.
Haute couture. Il y a un petit mélange, là, je crois.
Il y a un petit mélange.
Mais c'est des robes du soir un peu théâtrales, parce que maintenant, quand le défilé est terminé, il y a les clientes qui viennent, les clientes couture, et c'est là qu'on les reçoit. Et derrière ces paravents, c'est là qu'elles font leurs essayages. Et donc, il y a des miroirs, il y a des choses importantes. Alors, ceux-là ne sont pas voilés, parce qu'il faut quand même se voir. J'aimerais bien le principe de dire, non, il faut avoir conscience et bien sentir le vêtement, et ne pas avoir de besoin de miroir. Mais hélas, nous sommes dans une vie où le miroir est très, je dirais presque fondamental. Hélas, ou tant mieux, je ne sais pas. En tous les cas, le miroir est très important.
Parfois, je vous ai entendu dire ça par moment, que vous vous identifiez au tissu, aux vêtements, comme si c'était le prolongement de vous-même.
C'est-à-dire que ça, c'est une façon tout à fait involontaire. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'a fait remarquer, pour être à fond dans ce que je suis en train de faire. Ouais. Je m'identifie un peu au tissu dans la sorte où je dis, alors là, parce que je fais les mouvements, c'est-à-dire que mettons, j'ai un mannequin et je suis là en train de comprendre le mouvement du tissu et comment je voudrais qu'il aille. Alors je dis, et là je passe là et je retourne là et je redescends ici et je remonte. Vous voyez ce genre de choses-là. Parce que c'est pour être vraiment concentré dessus, si vous voulez, et vraiment voir un peu comment ça se passe. Mais il faut que je me parle et me dise la mécanique, quoi. J'ai besoin de l'entendre.
Oui, mais donc ça veut dire que vous rentrez dans une sensibilité presque physique, oui. Sensuelle avec la matière.
Tout à fait, tout à fait. Ben, je crois que c'est ça, parce que comment y aller tomber. Et du coup, si vous voulez, en faisant le mouvement, je vois un peu plus, alors je comprends un petit peu plus comment ça va tomber.
Alors, vous dites que vous recevez vos clients de couture. Mais alors, moi qui ne suis pas du tout dans ce milieu, ça veut dire quoi une cliente couture ?
Ben, une cliente couture, c'est une personne qui veut avoir des vêtements faits sur mesure sur elle. Et des vêtements exclusif. C'est-à-dire des vêtements qui ne seront pas, qu'elle n'aura pas l'occasion de retrouver sur d'autres personnes. Ou alors dans des pays différents. Mais si elles se croisent, c'est embêtant.
Ah, c'est embêtant. Et donc ça vous
fait poser des problèmes.
Vous faites très attention à ça.
On est tout à fait, d'autant plus maintenant que les réseaux sociaux et tout, notamment il y a des blogueurs qui quelquefois suivent une personne et qui montrent, notamment il y a un blogueur qui suivait une personne et montrait après les autres personnes qui portaient la même robe. Je parle pas spécialement de mes vêtements mais en général et tout, des vêtements couture et tout. Or la couture, et c'est en cela où, quand on dit, vous savez, c'est cette histoire de, ah oui, les clientes, quand elles voient porter sur des actrices ou sur des chanteuses, enfin sur des stars, ça fait plus vendre. En tous les cas, pour la couture, c'est pas le cas.
Ah ouais.
Parce que justement, elles veulent des choses, elles veulent pas des choses qui déjà ont été vues, déjà.
Elles veulent portées. De l'inédit, absolument.
Exactement.
Quand vous vous proposez dans vos défilés tous les modèles que l'on a vus, c'est-à-dire que vous les ajuster pour une cliente, vous les réinventez.
C'est pas qu'on les on ne les réajuste pas, on les refait.
Vous les refaites
faites pour elles, selon leurs mesures et tout, avec des adaptations.
D'accord.
C'est ça aussi la couture. Le propos de la couture, c'est par exemple certaines personnes qui ne veulent pas avoir les manches, les
comme
bras
ça.
Nus,
d'accord.
Qui veulent avoir les bras couverts. D'accord. On peut changer les couleurs. D'accord. Donc il y a tout des effets, tout est à voir. Ça peut se faire dans une toute autre matière, mais qu'il faut quand même qu'il corresponde un peu à tout le travail qu'il y a de draper. Vous voyez. Donc c'est respecter le vêtement, mais tout en le transformant pour une personne. Mais ça fait partie de normal de la couture. C'est-à-dire que c'est un peu genre, j'ai ça, mais de cette base-là, moi je porte pas cette couleur-là. Pour XY raison, moi les manches sont trop longues et tout, je peux pas, je vais m'empêtrer, je vais mettre les manches dans le plat quand je vais manger.
Donc il n'y a pas deux clients dans le monde qui ont la même robe.
Exactement.
Ça c'est incroyable.
Mais ça c'est le prix de la couture. Donc c'est pas la quantité, c'est la qualité. Bon, le prix aussi équivaut que, on a intérêt à faire ça, non ? Il vaut mieux garder la cliente et ne pas le faire deux fois, et le faire plutôt une seule fois si...
Vous avez arrêté le prêt-à-porter à un moment donné ?
Oui.
Pourquoi vous avez arrêté ?
Eh bien, parce que c'était le moment d'arrêter. Voilà, ça fait quand même maintenant 40 ans que je suis dans le métier. La mode est changée, tout s'est passé merveilleusement bien. J'ai été au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, puisque je n'avais pas fait aucun plan de carrière. C'était pas du tout mon... Ça me choque d'ailleurs un peu quand on dit quel était votre plan de carrière. Oh, plan de carrière, au secours. Donc, je trouvais que ça avait vraiment changé et que j'étais peut-être, je pouvais plus m'épanouir dans autre chose, notamment dans la couture. Pourquoi ? Parce que avant, si vous voulez, il n'y avait pas quand même... la mode a beaucoup changé, il y a beaucoup plus de monde, il y a de plus en plus des collections, il y a énormément de différentes maisons qui font des choses d'ailleurs pas mal. Les prix sont de plus en plus chers, alors que les gens payent de moins en moins pour les vêtements. Donc une espèce de paradoxe. Il y a beaucoup trop de vêtements par rapport aux gens qui vont les acheter et qui vont les porter. Beaucoup trop. Donc, et au contraire, l'industrie, parce qu'il y a aussi une grosse industrie de la mode, même si c'est une industrie du luxe, il y a une grosse industrie de la mode. L'industrie produit de plus en plus, alors qu'il faudrait le faire de moins en moins, je crois. Donc, voilà, j'ai préféré arrêter. Maintenant, en plus, ce qui compte, c'est surtout aussi les gros groupes avec un pouvoir de...
financier, vous voulez dire
financier aussi, même de pour la publicité et tout, qui compte.
C'est-à-dire qu'il y a une prise de pouvoir sur la création.
Sur la créativité, ouais. Totalement.
Ça a changé beaucoup.
Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut maintenant, pour pouvoir exister... C'est pas faire des beaux vêtements et des vêtements qui plaisent, etc. C'est maintenant pouvoir des budgets énormes pour les publicités, aussi bien à télévision que dans les magazines, que maintenant les gens lisent de moins en moins, etc. Mais partout, tout le monde fait de la publicité, énormément de la publicité. Et ceux que les gens retiennent, c'est ceux qui en font le plus. Et maintenant, ceux qui passent... Moi, j'ai eu la chance de bénéficier, parce que c'était l'époque, à une époque où les couturiers et les gens du prêt-à-porter, mais on va dire créateurs, créatifs, ne faisaient pas de publicité eux-mêmes, ne payaient pas et tout, et que les journalistes les choisissaient pour leur création, pour montrer ce qui se faisait. Maintenant, c'est quand même vraiment dirigé par économiquement qui paye pour faire de la pub. Il y avait des annonceurs, donc être annonceur à l'époque, c'était quelque chose que certains même magazines disaient, peut-être vous êtes annonceur, mais je ne suis pas pour autant obligé de montrer ce que vous faites. Vous payez pour faire de la publicité, mais moi, je montre dans mon rédactionnel ce que je veux. Maintenant, c'est plus du tout le cas.
Oui, donc vous revenez peut-être à l'idée d'une maison de couture un peu à l'ancienne. C'est ça qui vous intéresse ?
C'est pas le côté nostalgique de ça, c'est simplement le côté de moi, en fin de compte, pour être très honnête, pour pouvoir être libre. Oui. Pour pouvoir être plus libre. Alors, c'est vrai que je ne peux plus faire peut-être certains vêtements que j'aurais fait dans le prêt-à-porter. Parce que dans le prêt-à-porter, quand même, en général, s'adresse à une clientèle. Quoique, il y a quelques clientes jeunes, mais tellement peu, dans la haute couture. Donc, c'est vrai que je ne peux plus faire les mêmes créations qui pouvaient quelquefois être plus avant-garde, on va dire, ou provocatives comme avant. Mais en fin de compte, et plus essayer de plaire, parce que comme je l'ai fait avec ma première collection couture, je me suis dit, cette fois-ci, je ne fais pas de show, c'était symbolique déjà là, et ça remonte à plus de 20 ans quand même maintenant, ma première collection haute couture. Déjà là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a tellement de choses, ça devient presque comme une foire, quoi, maintenant. Maintenant, c'est presque plus le décor que le vêtement lui-même. Moi, quand même, mon spectacle, c'est plutôt dans l'attitude, dans ce que font les mannequins ou ce qu'ils ne devraient pas faire et qu'ils font, ce que je veux montrer comme attitude, et aussi dans les vêtements. Alors que maintenant, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Il y a des maisons où c'est vraiment le décor le plus coûteux, le plus... tout plus est mis voyant, sur la superbe production, vous voyez. Ben, je peux avoir par moment des choses comme ça, si vous voulez, mais c'est pas la peine de montrer quelque chose qu'une femme de la couture ne pourra pas porter. Ceci dit, je dis ça, mais enfin, il y a ces choses avec la transparence, évidemment. Oui. Mais ça, ce sont quelques modèles, comme j'ai, en fin de compte, toujours fait. Parce que j'ai toujours pensé, même quand je faisais mon prêt-à-porter, qu'en fin de compte, même tous mes vêtements étaient portables, sincèrement. J'ai vraiment pensé, je vais même peut-être dire, je l'ai même cru. peut-être que c'était pas tout à fait le cas, mais c'est vrai que ça peut s'adresser à tellement de différentes personnes, vous voyez. Il y a des personnes qui peuvent porter ça. L'acheter, c'est peut-être autre chose, mais le porter, oui.
Je voudrais vraiment que vous me racontiez un peu les dessous d'un défilé, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment tout un protocole. par exemple, les invités sont placés d'une certaine manière et pas d'une autre. Est-ce que ça, c'est vous qui pensez à ça ou c'est la logistique autour? Parce qu'on ne voit pas les vêtements de la même manière là où on, en fonction de là où on est placé, par exemple.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, si, il y a toute une chose qui est établie, mais qu'il était... Alors, je voudrais faire une parenthèse simplement sur mes débuts, où, en fin de compte, j'avais pas une attachée de presse professionnelle, on va dire, et c'était... Francis et moi qui décidions qui devait venir, et voilà. Donc, à cette époque-là, je sais que pendant des années, j'avais des gens qui n'étaient pas intéressés par ce que je faisais, et qui après, comme quand même on parlait de moi, venaient et écrivaient des articles quelquefois vraiment purement méchants, et parce que j'accepte les critiques, bien sûr, on s'expose à cela. Et à un moment, je me disais, bon, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine de les inviter, quoi. C'est pas du tout dire interdiction, c'est simplement, puisque vous n'aimez pas tellement ce que je fais, pourquoi vous faire souffrir, hein? Puisque de toute façon, c'est... Donc voilà, c'était simplement...
Des critiques malveillantes, critiques.
Ah ouais, j'ai eu des choses quelquefois, comment c'était... Ah oui, pour un défilé homme, donc ça c'était quand même un petit peu plus tard déjà, mais c'était Homo lave plus blanc. Voilà. Donc quand même, bon, ça c'était quand même assez... et pourtant d'une journaliste qui est morte maintenant et tout, donc je dirais même pas le nom, mais c'était pourtant une journaliste assez respectée et tout, etc. Et voilà, je trouvais quand même que le jeu de mots, je sais pas si c'était un jeu de mots, mais quand même il y avait une espèce de méchanceté, de... Voilà. Donc il y avait des personnes pendant un moment même que j'invitais pas. Et j'ai dit, et puisque eux, de toute façon, ça les intéresse pas et qu'ils font pas de photos avec, pas la peine de les faire venir. Je préférais mettre mes amis ou des personnes qui n'avaient strictement aucune importance, ou même les copains des mannequins et tout, qui venaient. Enfin des personnes, vous voyez. Après tout, ça doit être une fête, donc autant la célébrer ensemble. Et puis il y a des moments où oui, mais un tel doit venir. J'ai un tel quoi, pourquoi, pour quelle raison. Je remettais un petit peu en question comme ça l'espèce d'ordre établi. Alors à un moment, je me souviens quand même une chose assez drôle, c'est que j'avais fait on commençait à me demander, je sais pas au bout de combien d'années, on commençait à parler des people. Qui est-ce que vous avez comme personnalité qui vient à votre défilé? Parce que c'était toujours, ça faisait mieux d'avoir des personnes qui viennent et tout. Mais c'était pas encore le grand truc comme maintenant, vous voyez. Et je me souviens que j'avais pensé à faire venir le sosie de la reine d'Angleterre, Huguette von Frock. Et donc française, donc le sosie français, et donc avec l'arrivée, avec le God Save the Queen, elle s'est assise et tout, comme si la reine d'Angleterre venait voir mon défilé, voilà, comme ça. Ça y est, c'est il y a une trentaine d'années, ça quand même, c'était assez dans les collections des débuts, 34 ans. Et donc ça, mais c'était une rigolade pour se moquer un petit peu justement de ce qu'il fallait faire, etc., et le faire d'une façon drôle.
Mais aujourd'hui, il y a quand même un protocole.
Ah, il y a un protocole total. Il y a un protocole total qui est genre les premiers rangs, être au premier rang, une bagarre des premiers rangs. C'est genre, ah tiens, celle-là, elle n'est pas là, ou tiens, ou par exemple, je me souviens d'une journaliste de mode qui, à l'époque, était au L et qui partait du L. Et elle nous avait demandé expressément d'être, qu'on la mette quand même toujours au premier rang, puisqu'elle était d'habitude au premier rang. Et ceci dit, j'ai toujours fait les personnes que je connaissais qui étaient plutôt sympathiques et qu'en plus je trouvais talentueuse dans ce qu'elle faisait dans le magazine, talentueuse par des belles photos qui sortaient, etc. et tout, même si je n'y étais pas quelquefois. Mais si j'admirais ce qu'elle faisait, voilà, je disais, oh bah si, il faut la mettre et tout. Elle, comme elle était très drôle et avec beaucoup de personnalité, je me dis, bah d'accord, tout à fait, premier rang et tout, comme d'habitude, etc. Et elle est arrivée avec un énorme chapeau pour que tout le monde la remarque et que personne ne voit derrière. J'avais trouvé ça quand même assez drôle. Enfin bon, c'est ça, c'est genre, et comment elle est pas au premier rang, une telle et tout, et quelquefois il y a des bois, quelquefois c'est une insulte, il y en a qui part indignés, genre, ouais. Il y a des règlements de compte, quelquefois. Alors moi je regarde quand même pour certaines personnes, on sait que quelquefois il faut pas mettre telle personne avec telle autre personne.
D'accord.
Parce qu'elles sont un peu incompatibles, ou rivalité un peu trop forte, donc il faut savoir un peu ce genre de choses-là pour pas faire d'impair. Mais c'est vraiment diplomatique, c'est vraiment un rôle de...
Vous n'avez pas la méchanceté. Hein.
Non, parce que je trouve que comme ça, une agressivité comme ça et ridiculiser les gens. Justement, alors je ne veux pas non plus faire la même chose, moi, d'accord, non plus.
Dites-moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez senti et quel goût ça a, le succès. Comment vous vous êtes dit, là ça y est, je suis quand même appréciée, mon travail est reconnu et je suis installée dans quelque chose qui va m'apporter du succès sur du long terme. Vous n'avez jamais senti ça.
Ça a toujours été, si vous voulez, tous mes débuts, mais enfin mes débuts qui ont été assez longs, quoi, jusqu'à la mort de Francis, c'était quand même, on va faire une collection la prochaine fois, si ça marche, Ça s'était un peu estompé vers la fin 80. On commençait à avoir un succès un peu plus certain et on vendait, parce qu'il y avait derrière quand même Gibaud qui fabriquait. Donc un industriel italien, et les industriels italiens sont assez forts quand même aussi pour la commercialisation. Mais quand même, on avait, les défilés plaisaient énormément et je dois dire qu'on n'était jamais sûr, on savait très bien que d'un moment à l'autre, de toute façon, on sent de toute façon quelquefois quand d'un seul coup, les gens n'ont plus les mêmes attitudes derrière. Un peu à peu, on sent quand même des revirements, des gens, ou une collection qui plaît moins. Bon, ça se voit. À mes débuts, bon, il y avait des collections, une notamment où j'avais mis un Sappho sortant d'un cercueil. Ça, je sais que, en France, en tous les cas, ça n'a pas plu du tout. En Angleterre, évidemment, beaucoup, mais là, ici, c'est pas l'humour gothique, on connaît pas trop. Donc, mais disons, vous voyez, c'est quand même un métier. La mode, c'est ce qui se démode. C'est ça qui est terrible. Donc, c'est être toujours là sur un fil. Toujours là sur un fil. Parce que, voilà, on ne peut qu'être démodé si on a été à la mode. Sinon, c'est qu'on n'était pas à la mode. Alors que quand on n'est pas à la mode, on peut toujours devenir à la mode. Vous voyez, on a toujours cet espoir. Alors que avoir été, c'est avoir été, voilà. Donc, il y a toujours cette notion-là.
Il y a une tension quand même.
Il y a une tension toujours. Ouais. Et puis, quand même si je me dis, bon, d'accord, ça fait quand même plein d'années, et tout, oui, toute une carrière, quand même, j'aime toujours que les gens aiment bien mes vêtements, vous voyez. Puisque je sais que c'est par mes vêtements que je peux être aimé. Donc voilà. Donc j'ai toujours cette crainte de ne plus être aimé, en fin de compte. Alors c'est pas pour des raisons commerciales, c'est pour des raisons simplement d'amour, quoi. De fait, voilà, puisque je suis ce que je fais, en fin de compte, honnête avec ce que je montre et ce que je propose. Donc, c'est évidemment que ça me touche si d'un seul coup il y a des amours, vous voyez.
Ben forcément. Mais je voudrais revenir à votre manière toujours, je trouve, je ne sais pas si vous en avez conscience ou c'est quelque chose, où vous êtes tout le temps comme ça entre votre histoire qui est quand même très forte, votre histoire là où vous avez grandi, etc. Ouais. Et puis ce milieu du luxe qui n'était pas un milieu dans lequel vous avez été préparé à vivre finalement.
Mais je suis tellement pas préparé, j'y étais tellement pas préparé qu'en fin de compte je le fréquente pas vraiment, pour ainsi dire. C'est-à-dire je suis dans mon univers là, mais qu'en fin de compte j'ai entre guillemets créé là avec ce décor et tout. Bon, c'est grand et tout, etc. Mais pour moi, le vrai luxe, c'est d'avoir la liberté de pouvoir faire ce que je fais. Et puis, c'est peut-être justement de ne pas être intégré, on va dire, complètement dans le milieu de la mode.
Ça, on sent que c'est très fort, en fait.
Ça, c'est vrai que peut-être j'ai un côté un petit peu à regarder un peu avec une distance le milieu de la mode. Ben c'est comme comme les célébrités, tout ça et tout, c'est quelque chose que je peux admirer. J'aime bien admirer. C'est vrai, mais j'aime bien être même fan de, que ce soit chanteuse, actrice, autre designer, couturier. J'aime bien quand je vois une collection qu'un autre a fait et que je trouve vraiment très intéressante. Ah, bravo, ça m'enthousiasme, vous voyez. Et à la limite, ça me donne de l'énergie. Mais, moi-même, je me considère pas tout à fait comme ça. C'est pas de la modestie ni de la fausse modestie. Je sais pas ce que c'est simplement que, peut-être que, alors, je sais pas si je me sens comme, comment on va dire, vous savez, quelqu'un qui ne mérite pas, si je me sens.
Il y a ça.
Peut-être.
Mais c'est une espèce de boussole intérieure.
Oh, je trouve que je fais des choses pas mal quand même. Je suis pas trop. Non, je me dis quand même qu'il y a des choses qui sont bien. Et puis ça m'énerve peut-être. Mettons, je sais pas si j'ai fait une certaine chose et que qui n'a pas été du tout appréciée. Puis d'un seul coup, quelqu'un d'autre la ressort telle que et que pour x y raison. Paf, ça marche et tout. Ou c'est apprécié qu'on parle même pas que moi aussi je l'avais fait. Ça peut m'énerver. Mais en même temps, je peux prendre ça comme un compliment. C'est vrai que moi, j'ai bien fait des vêtements quand même où j'étais inspiré des années 50, des années 60, de différentes périodes. Hein. Donc je veux dire, le fait de recomposer un peu l'histoire de la mode, puisque j'en fais en plus partie.
Absolument.
Maintenant, donc c'est vrai qu'à la limite, ce ne sont que des compliments.
Est-ce que c'est gênant de vous demander combien coûte une robe, Jean-Paul Gaultier ?
Prête à porter ?
Non, voilà, tout ce qu'on voit là. Couture, voilà, cette magnifique robe, là, je me vois bien dedans. Marie-Antoinette, un peu.
Ah, celle-là, oui, dans le jardin et tout, au Trianon et tout. Bon, je ne sais pas exactement le prix de celle-là, on va dire que c'est... attendez, peut-être qu'il faut que je demande à Yelka. Qu'elles disent un peu les débuts des prix.
Une fourchette.
Je sais pas, ça doit être...
Ça ne vous intéresse pas vraiment, Jean-Paul ?
C'est vrai. Ah, ça ne m'intéresse pas vraiment. Non. Yelka. Quel est le prix le plus bas, par exemple, pour une robe ?
Le prix. Vous ne savez pas non plus.
Non, mais je crois qu'il y a des tailleurs. Comment, les premiers prix, c'était quoi dans les... 20 000 euros, voilà. Voilà, le premier prix, ça doit être quelque chose comme ça. Mais maintenant, il y a du prêt-à-porter de luxe qui arrive, bon, qui n'est pas tout à fait à ce prix-là, mais certains vêtements qui sont à des prix vraiment qui courent les 20 000 euros. Enfin.
Alors, quelqu'un m'a dit, mon petit doigt m'a dit que vous étiez quelqu'un de très généreux dans la vie, avec vos proches, vos amis, c'est vrai?
Bah, comment ne le serais-je pas? Je ne sais pas si je le suis vraiment, vraiment totalement, mais du fait de ce que je fais ce que je rêvais de faire, je réalise mes rêves d'enfant, pourquoi est-ce que je ne serais pas généreux et puis que tout le monde soit heureux? Donc, j'ai un côté très positif par rapport à la vie. Oui.
Vous partagez ça, beaucoup, en fait. C'est vrai, ça? Ouais.
Ben, j'espère. Peut-être pas assez, je pense, quand même. Oui, dans le sens où, par exemple, j'ai l'impression d'être tellement, si vous voulez, sur mon travail et ma passion, en fin de compte. On va dire, c'est comme mon jouet, quoi. C'est plus qu'un jouet, puisque c'est ma vie, quoi. Mais, en fin de compte, être quand même très concentré sur ça. C'est-à-dire que tout ce qui m'enrichit dans le sens intellectuel, on va dire, ou de sensations, je le dois à ce métier que j'ai fait pour être aimé. Alors, c'est normal, si on m'aime grâce à ça, et ben que je sois généreux, ça paraît logique, non?
Et du coup, pour moi, vous êtes vraiment associé à tout ce qui est spectacle vivant. C'est très vivant tout le temps.
Ah, oui.
C'est-à-dire que quand vous faites une expo, c'est vivant. Quand vous faites des défilés, c'est vivant, de la couture. Et là, un spectacle de cabaret. Et je me dis, mais après, vous avez fait à peu près tout ce que vous avez eu envie de faire. Une expo extraordinaire, plus d'1 400 000 entrées. Presque 2 millions, un peu partout, aux États-Unis, en France, au Canada, bref. Est-ce que vous archivez tout pour garder tout ça?
Parce que j'ai fait tellement de collections, je peux vous dire qu'il y en aurait 100 fois plus. Entre l'homme, la femme. J'ai des archives, évidemment, j'ai même trop de vêtements d'archives, mais c'est quelquefois des invendus. À une époque, d'ailleurs, tous les vêtements du défilé étaient distribués aux personnes qui travaillaient avec moi. Mes débuts, j'en ai très peu qui me restent. C'était ceux vraiment qui étaient importables.
Oui.
Vraiment ceux qui étaient, même pour rigoler, non.
On va se quitter, là, bientôt c'est l'heure de rendre l'antenne. Quels sont les mots de la fin de cette série d'émissions que vous voulez nous dire sur vous, sur votre travail, sur votre histoire?
Ben, je dirais que j'ai pas à me plaindre, au contraire, que je bénéficie de la chance de pouvoir réaliser mes rêves, et c'est ça la chose principale, et ça permet d'être en même temps toujours libre, et ça c'est le plus beau des luxes, je crois.
Mmh. Moi, ma dernière question, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui reste de l'enfant d'Arcueil aujourd'hui?
Ben, je dirais que l'enfant d'Arcueil, je crois qu'il est toujours là, il a toujours été là, comme je crois que notre enfance est toujours avec nous pour toujours. Ce que je crois simplement, c'est que j'ai pris, par tous les éléments que je vous ai expliqués, par tous les faits qui se sont passés, la carrière de la mode, que la mode, en fin de compte, si vous voulez, qui a tout souvent été vue comme quelque chose de léger, de superficiel, en fin de compte, c'est cette mode, ce métier m'a permis de découvrir des gens, des occupations, des activités, des personnalités. C'est-à-dire que la mode m'a permis de m'ouvrir, en fin de compte, sur le monde et de nourrir ma curiosité. Donc je dirais, vive la mode, parce que je pense que la mode, ce n'est pas seulement présenter des vêtements, c'est aussi être en contact avec la vie. C'est être en contact avec la vie.
Merci Jean-Paul Gaultier de nous avoir reçus toute cette semaine dans ce magnifique immeuble de la rue Saint-Martin.
Merci, c'était un plaisir.
Fin de cette rencontre de Leïla Djitli avec Jean-Paul Gaultier. À voix nue, réalisation Clémence Gross. Prise de son, Mathieu Perrault, Raymond Alboui. Documentation, Anne-Lise Signoret. Coordination, Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.